n'est pas une exposition à la gloire de Napoléon, c'est pas une exposition critique sur Napoléon, elle est critique au sens historique du terme, c'est-à-dire qu'elle restitue une époque avec ses bons côtés, ses mauvais côtés, la légende dorée et la légende noire. Après, ce sont des images, et ce sont des images qui ont participé à une légende. Donc on raconte une histoire à travers cette exposition.
Marie-Lise Marguerite n'en fait pas mystère, elle n'est pas une passionnée du personnage. Mais pour la directrice du musée d'Arras, co-commissaire de l'exposition Napoléon, nul besoin d'être un amateur ou un fin connaisseur de l'épopée bonapartiste pour se laisser happer par les 160 œuvres présentées, peintures, sculptures, meubles et objets d'art très rarement visibles prêtés par le château de Versailles. Les néophytes ou autres contempteurs de l'empereur sont donc a priori eux aussi les bienvenus. Ils découvriront un Napoléon artisan de sa propre légende, qui cadenassa très vite sa communication, conscient de ce que l'art pouvait pour sa gloire, une gloire qui transpire de chacune des œuvres présentées, très ligne officielle, du fait même de leur nature et de leur provenance versaillaise. Pour autant, Marie-Lise Marguerite s'en défend, rien à voir avec une exposition hommage.
On ne veut pas du tout faire la géographie de ce personnage. C'est d'abord une exposition qui rassemble les collections du musée de Versailles et qui permet au grand public de voir des collections qui sont habituellement invisibles. On est sur des œuvres qui sont officielles, des commandes de Napoléon ou des commandes plus tardives du pouvoir en place, du pouvoir monarchique ou du Second Empire, mais qui ont été commandées clairement pour construire la légende napoléonienne. Donc on n'a pas d'œuvres qui contesteraient cette figure de Napoléon. En revanche, dans la présentation, on a voulu, avec un parcours historique, avec quelques contrepoints aussi convoqués dans les collections de Versailles, évoquer le caractère extrêmement rigide du pouvoir de Napoléon, évoquer le pouvoir sans compromission et sans concession qu'il va avoir, l'instauration de ce pouvoir avec un appui fort politique, militaire, toute la force de l'armée, mais aussi ce que ça impliquait comme sacrifice pour les soldats, et puis à travers l'histoire un peu plus intime de Napoléon, la manière dont il maîtrisait les alliances ou les mésalliances de ses frères et sœurs, la mainmise qu'il avait sur eux, la manière dont il va répudier, même si il garde des sentiments pour elle, Joséphine, pour pouvoir avoir une descendance, montre quel était le contexte, en fait, et montre aussi la face un peu plus sombre de ce pouvoir impérial, de ce pouvoir qui grandit, et puis qui finit par exploser, ou en tout cas par chuter, trébucher, avec de plus en plus de morts dans l'armée, avec une contestation du pouvoir qui grimpe et qui va conduire donc à l'exil, d'abord à Elbe, puis à Sainte-Hélène.
Pas facile tout de même d'éviter cette dimension hagiographique en ne présentant que des portraits officiels.
Moi, j'espère qu'on a réussi à l'éviter. Ça reste une exposition historique. Et Napoléon reste l'un des personnages fondamentaux de notre histoire nationale. Alors, effectivement, on est dans une histoire qui s'écrit au XIXe siècle. Donc, on est dans le roman, dans le récit. C'est pas la neutralité qui est ici recherchée. Mais nous, on présente ces œuvres avec un contexte historique. Et donc, j'espère qu'on a réussi quand même à instaurer une distance et à donner suffisamment de clés aussi aux visiteurs à travers les outils de visite, les livrets, les cartels, à travers aussi les visites guidées qui sont proposées pour permettre aux visiteurs de se faire une idée un peu plus neutre, justement, et sa propre idée sur Napoléon et sur l'époque aussi. C'est pas qu'une exposition sur Napoléon, mais c'est aussi une exposition qui restitue une époque, une ambiance. Voilà. Autour de l'exposition, je voudrais aussi dire que pendant les 13 mois, on a la chance de pouvoir bénéficier du partenariat des autres musées de la région qui, chacun, vont proposer des contrepoints. À Boulogne, vous pourrez voir les caricatures anglaises sur Napoléon qu'on ne peut pas présenter, nous, dans notre exposition. À Creil, vous pourrez voir comment les arts du quotidien, les assiettes par exemple, vont utiliser la figure de Napoléon comme élément d'illustration.
Premier tableau, Marie-Lise Marguerite, de notre parcours à travers cette exposition Napoléon, c'est le tableau dont vous avez choisi la représentation pour le visuel de l'exposition, c'est l'une des premières campagnes de Napoléon. Il est en 1796 général, c'est la première campagne d'Italie. On le retrouve à Arcole. Premier tableau, la légende est déjà en marche et la communication de la légende est déjà en marche puisque ça ne s'est pas du tout passé comme la toile le représente. Il n'était pas sur le pont en faisant front à l'ennemi, drapeau et cheveux presque au vent, il était tombé dans l'eau.
Oui, c'est un épisode effectivement compliqué pour Napoléon qui, comme vous l'avez dit, évite de justesse une salve d'Autrichiens et finit effectivement les fesses dans l'eau, enfoncé dans le marais, sauvé de justesse par quelques-uns de ses soldats qui vont avoir la présence d'esprit de le sortir avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, le pont d'Arcole, la bataille du pont d'Arcole reste un événement phare dans la vie de Napoléon et reste dans notre histoire nationale aussi l'un des moments historiques fondateurs de la légende de Napoléon. On le doit sûrement à ce portrait qui est le premier grand et véritable portrait réalisé de Napoléon Bonaparte, du général Bonaparte à l'époque, pendant la première campagne d'Italie, donc en 1796. C'est le moment où cette personnalité exceptionnelle va émerger sur la scène française et où effectivement il va pour la première fois prendre conscience de la valeur en termes de communication, des œuvres artistiques.
Vénéré ou honni, quoi qu'il en soit, Marie-Lise Marguerite, Napoléon, il est constitutif du roman national.
Oui, c'est encore une personne, une personnalité qui est extrêmement importante dans notre histoire. C'est celle que connaissent le plus les étrangers de l'histoire française. C'est celle que aujourd'hui les touristes belges ou russes viennent chercher à Arras. Et puis c'est surtout une personnalité qui fait encore référence. Et on ne va pas se voiler la face. Notre président de la République actuelle a été beaucoup comparé à Napoléon au moment de sa prise de pouvoir. Donc voilà, l'homme en marche fait encore référence aujourd'hui.
Deuxième toile, Marie-Lise Marguerite, emblématique de la construction de la légende napoléonienne. Bonaparte est dorénavant consul. On est en mai 1800, deuxième campagne d'Italie. Bonaparte va franchir les Alpes et se faire représenter par David, peintre officiel de sa personne. Il se fait représenter par David sur un destrier majestueusement blanc, plutôt que l'âne vraisemblablement sur lequel il a traversé les Alpes.
Oui, c'est effectivement le tableau le plus symbolique du nouveau pouvoir en place, du pouvoir de Napoléon et de sa maîtrise de l'image. Il a une maîtrise totale de la communication, jusque dans ses actions. Il aurait pu passer en Italie par le sud, mais il décide de franchir les Alpes. Pourquoi ? Parce que c'est un coup de force exceptionnel et que presque personne avant lui n'a pu réaliser.
Hannibal, sauf Charlemagne.
Et voilà, les deux prédécesseurs formidables, Hannibal et Charlemagne, dans la lignée desquels il va s'inscrire et il va le signifier dans le tableau. Napoléon donc fait avec l'ensemble de son armée une ascension rocambolesque, difficile, complexe, à dos d'âne, vous l'avez dit. Les soldats sont obligés de charrier eux-mêmes l'artillerie, de porter les canons. À cette époque, l'armée, c'est pas exactement la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a les hommes, mais il y a aussi les femmes et les enfants qui suivent. Et donc faire franchir les Alpes, même au mois de mai, à tout ce petit monde, c'est pas d'une évidence exceptionnelle. Donc l'événement en lui-même est un événement historique, fait date, et il va être longuement rapporté par la presse à l'époque. Et Napoléon sent bien qu'au-delà du récit, il faut pouvoir fixer l'image de ce moment décisif.
Ce personnage ambivalent, personnage controversé, personnage clivant que ce Napoléon Bonaparte, à ce point que les autorités françaises elles-mêmes ont refusé, c'était en 2005, c'était le président Chirac à l'époque, de célébrer le bicentenaire d'une victoire, celle d'Austerlitz. Donc les autorités françaises elles-mêmes sont quelque peu en porte-à-faux vis-à-vis de ce personnage, une fois encore, constitutif du roman national.
Les Français, de manière générale, sont assez prudents sur leur histoire. Je pense qu'on peut leur reconnaître cette qualité-là. C'est vrai qu'autour de Napoléon, pour les commémorations des batailles, que ce soit des victoires ou des défaites, on a très peu vu la France. Elle a été peu représentée. Et en France, on a vu peu d'expositions sur Napoléon, sur la figure de Napoléon, pendant toutes les périodes de célébration. Je crois qu'il faut attendre aussi d'être moins dans l'affectif et dans la célébration pour pouvoir consacrer une exposition, comme c'est le cas aujourd'hui, à cette figure, en essayant d'évoquer effectivement toute la palette et tous les aspects du pouvoir de Napoléon et de l'époque.
Marie-Lise Marguerite, on continue notre parcours. Troisième étape, voilà Bonaparte empereur face à nous, le portrait de Napoléon en empereur, peint par François Gérard. On est là dans une nouvelle mise en scène de la majesté impériale.
Alors sur ce portrait, Napoléon s'inscrit quand même dans une tradition de peinture très ancienne, celle effectivement de la représentation du pouvoir et notamment du pouvoir royal. On le retrouve dans un costume d'apparat qui est extrêmement lourd, avec un manteau d'hermine qui vraiment le couvre d'une certaine ampleur, et il est couronné. Alors une couronne qui est nouvelle quand même, c'est pas la couronne des rois de France mais la couronne de laurier, donc celle qu'il reprend de l'Empire romain. Il tient un sceptre avec aussi un motif impérial, l'aigle, qu'il va reprendre à son compte. Mais il a la main de justice, le globe, qui sont des éléments de sacre plutôt traditionnels. Derrière lui, on a une tenture d'un bleu un peu turquoise, assez nouvelle, couleur assez nouvelle, et Napoléon était dans une époque un peu pop en termes de coloris. On voit aussi des nouveaux symboles comme les abeilles qui parsèment à la fois son manteau et le tapis sur lequel il prend place. Petits éléments personnels, petite touche personnelle pour Napoléon, l'épée. Donc, qui est son épée de commandement, qu'il a depuis le consulat, une épée assez simple de général, sur laquelle quand même il a fait poser sur la garde de l'épée le régent, qui est le plus gros diamant connu de l'époque, une manière assez simple de poser son autorité et sa suprématie sur tout le monde.
Marie-Lise Marguerite, au terme de notre parcours dans cette exposition, ce qu'on a appris, c'est que Napoléon, en dirigeant politique, a orchestré sa propre communication, a mis en scène son image. Finalement, rien de bien neuf, ça se fait depuis que le pouvoir est pouvoir, si je puis dire. Mais en quoi la geste napoléonienne ou l'entreprise napoléonienne de communication est différente de celle de ses prédécesseurs directs, par exemple ceux de l'Ancien Régime ?
C'est quand même assez différent. Il y a effectivement toujours eu une complicité entre création artistique, image et pouvoir. Napoléon, il est quand même le premier à avoir un rapport très personnel à l'image. Il le comprend très vite avec le premier portrait réalisé de lui par le baron Gros, et il va à partir de ce moment-là donner des indications extrêmement précises non seulement aux peintres qui vont le représenter, mais aussi à ses généraux. Par exemple, quand il demande à chacun d'entre eux de se faire portraiturer, il va leur imposer le format de l'image, le type de représentation. Donc il a vraiment une conscience très fine de ce que l'image peut apporter au pouvoir, bien plus que les rois qui l'ont précédé, et effectivement autant, j'allais dire, que nos dirigeants actuels. La communication, de manière générale, pour Napoléon, est un instrument de pouvoir, donc l'image en est un, la diffusion de l'image par la gravure en est un aussi. La manière de raconter le nouveau roman, on est en période romantique, le récit, il le maîtrise et il va le faire changer de statut. L'histoire, de manière générale, elle naît à peu près à cette période-là. elle a un rôle tout à fait essentiel et que Napoléon maîtrise aussi complètement. Puis surtout, ce qu'il va changer, lui, dans les images, la représentation du pouvoir, c'est qu'il va passer d'images très allégoriques qui donnent des idées, des notions, des valeurs comme ça un peu vagues dans les tableaux, à des images historiques qui ne sont jamais réelles, toujours un petit peu fausses, mais qui ont des accents de vérité tout à fait inédites. Et en cela, les images que crée Napoléon sont très modernes et sont encore très proches de ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, dans les images diffusées par la presse ou par tous nos médias.
Justement, en quoi la façon qu'avait Napoléon de communiquer à travers l'art, à travers le commande officielle, a inspiré ses successeurs jusqu'à nos dirigeants politiques actuels ?
C'est difficile comme question, mais l'héritage de Napoléon, c'est sûrement la manière de se mettre en scène, c'est-à-dire accepter son physique, en jouer, le maîtriser aussi. Et en ça, Trump, par exemple, est presque un héritier de Napoléon. C'est aussi la manière, enfin vraiment le discours hein, que l'on va porter sur une image, le choix du contexte, hein, de l'arrière-plan, le choix du détail qui est toujours signifiant pour Napoléon. Une composition d'image n'est jamais neutre et surtout n'est jamais laissée à la liberté seule de l'artiste. Il a toujours une maîtrise sur ce qui est représenté dans le tableau. Et quand ça ne lui convient pas, il y a quelques exemples dans l'exposition, notamment le tableau de Meynier qui représente la bataille d'Eylau. Quand ça ne lui convient pas, il est très clair, l'œuvre disparaît, elle va dans les réserves et on en commande une autre qui est plus favorable, plus conforme aux attentes de Napoléon.
Est-ce que vous comprenez que le choix de Napoléon comme thème d'une exposition puisse heurter ?
Elle n'est vraiment pas faite pour heurter, cette exposition-là, et je ne crois pas que le musée soit par nature un lieu de conflit, au contraire. C'est un espace qui est un lieu de questionnement, en revanche, et je pense qu'il n'est pas nécessaire, et d'ailleurs, j'allais dire j'en suis la preuve vivante, mais il n'est pas nécessaire d'être un passionné de Napoléon, un amateur, ni même un connaisseur de la période, pour pouvoir plonger dans l'exposition. Apprécier la qualité des œuvres, quand même, parce que parmi elles, il y a des grands chefs-d'œuvre et parmi elles, il y a des œuvres qu'on a tous vues en reproduction quelque part. Donc pouvoir voir ces œuvres en vrai, c'est quand même une expérience sensible assez exceptionnelle. Pas de heurts et pas de revendications, aucune dans l'exposition. Pas de discours politique autour de Napoléon dans l'exposition. Donc j'espère pas de rejet de la part du public et pas d'appréhension non plus. C'est vraiment une exposition qui se veut ouverte à tous et où chacun, je crois, pourra trouver du plaisir intellectuel et aussi du plaisir visuel.